cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Alors, China Moses, qui parfois interview, mais là va se faire interviewer, puisque un peu une schizophrène, pour reprendre une expression que vous avez dite il y a quelques minutes. Là, vous êtes, vous mettez dans la peau d'une chanteuse que vous êtes, parce que vous sortez un nouvel album, mais cette fois-ci qui ne s'appelle pas China tout seul, mais China Moses, vous prenez votre nom de famille avec. Oui. Et un album un peu particulier qui s'appelle This One's for Dina, un hommage à Dina Washington. Et qui sort sur le label Blue Note, prestigieux label Blue Note.
Oui.
Alors, quelle est un peu, l'origine de ce projet ?
Alors, le projet a commencé il y a 2 ans maintenant. J'ai rencontré Raphaël Lemonnier, le pianiste qui a fait tous les arrangements. Enfin, c'est un projet commun de Raphaël Lemonnier et moi-même. On s'est rencontrés pour un autre spectacle, en fait, à Nîmes. Et un jour, on était en train de balader dans la Camargue parce que... Je ne connaissais pas les flamants roses de la France. Et dans l'autoradio, en fait, il y avait un CD de Dinah Washington. Et donc, on se met à discuter de notre amour, notre adoration de cette chanteuse. Et on a un ami en commun qui s'appelle Stéphane Cochoyon, qui est un programmateur de festival de jazz et un grand pianiste aussi, que j'avais rencontré quand j'étais toute petite. Une de mes premières scènes, en fait, il avait joué avec ma mère et j'avais chanté, c'est très drôle, au festival de Nîmes. Donc Stéphane, il nous a proposé de faire une création autour de Dinah Washington pour le festival de la Calmette, en fait, qui est une annexe du festival de jazz de Nîmes. Et donc on a fait ce spectacle, on l'a créé avec des amis musiciens et un comédien, et vraiment une sorte de, on a essayé une petite mise en scène un peu théâtrale, et puis ça a plu. Et donc au fur et à mesure des concerts, le côté un peu de la création s'est effacé, a laissé place un nouveau groupe avec un répertoire et cet hommage qui a pris forme. Et après, on n'avait plus de concert, donc il fallait qu'on fasse un disque. Donc l'année dernière, au Blue Note Festival, on a joué au Duc des Lombards. C'est un concert qui a été retransmis en direct sur TSF. Et j'ai un très bon ami qui m'a appelé le lendemain et qui a entendu le concert et qui a dit: écoute, j'ai un studio si vous voulez enregistrer le projet. Donc, on a enregistré chez lui. Et après, lui, il a fait écouter à Nicolas Flugue de Blue Note et qui a proposé une licence tout de suite. Donc, j'ai monté ma petite structure et on a produit le disque et signé chez Blue Note.
Comment ça se passe quand on chante déjà dans différents projets?
Ouais.
Quand on aborde un projet comme ça, donc sur une personnalité qui est une chanteuse, où toutes les sont vraiment un hommage, toutes les compositions sont liées à elle.
Oui.
Au niveau de la voix, quel est le travail? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Est-ce qu'on se dit il faut évidemment rendre cet hommage, mais en même temps rester soi-même? Comment s'est passé justement le travail de la voix là-dessus? Déjà pour le spectacle et peut-être après pour l'enregistrement.
Il n'y a pas eu de différence de temps entre le spectacle et l'enregistrement. L'enregistrement, en fait, a eu lieu pendant 3 jours entre 2 concerts. Donc c'est comme si on avait donné un concert, et c'est pour ça qu'on a fait des prises one take, en fait. C'est que on est tous dans un même studio, 1, 2, 3, c'est parti, et on aime cette prise ou pas. Pour l'évolution vocale, il a juste, je sais pas rien travaillé, mais en tout cas j'ai eu très très peur les premières fois, et j'ai toujours peur maintenant. Et c'est vrai que quand on aime beaucoup un artiste, moi je suis quelqu'un de très fan. Encore il y a des artistes qui arrivent à dépasser ce côté un peu fan. Moi j'ai la vraie fan attitude, c'est-à-dire quand j'aime un artiste, je veux tout savoir sur cette personne.
Est-ce que c'est pas justement un obstacle, c'est pas justement, ça complique pas les choses à partir du moment où on veut faire un spectacle, de justement de se dire mais est-ce que je vais pas toucher à quelque chose d'intouchable, ou finalement il faut se laisser aller et ça vient tout seul?
Je me suis dit que c'était intouchable, et c'est surtout je me suis dit comment est-ce que je vais faire, parce que le problème en vrai c'est pas Dinah Washington, c'est ma mère. Le vrai problème, c'était pas comment aborder Dinah Washington, parce que j'ai pas sa voix à Dinah Washington. Ouais, j'ai pas la même tessiture, j'ai pas, je suis incapable de même l'imiter vraiment vocalement, je peux pas. Par contre, ma mère, c'est une autre histoire. Donc, comment est-ce que moi, je vais réussir à me trouver, moi, vocalement, entre cette sorte de triangle qu'il y a de Dinah Washington, ma mère et moi au bout.
C'est un album freudien, en fait, un peu.
Ah, c'est total. Ah non, mais ça m'a... Ça m'a économisé tellement de séances de psy, cet album. C'est super. Ça m'a vraiment rapproché de ma mère, mais vraiment. Et en fait, c'est juste... Il n'y a pas eu de travail, c'est juste les concerts. En fait, au fur et à mesure des concerts... Parce que le premier concert, c'était pas totalement moi. C'était comment est-ce que je pouvais imaginer une chanteuse de jazz maintenant qui rend hommage à Dinah Washington. J'étais très extérieure. J'étais en dehors du projet. Maintenant, c'est moi. C'est moi qui est sur scène. C'est la chanteuse de soul. C'est la même fille qui a chanté avec Diams et les Nègres Marrons et fait les chœurs pour Jean-Louis Murat et Camille et qui est la fille d'Edith Bridgewater et l'animatrice d'MTV. C'est elle qui chante maintenant. Et ça m'a pris un an et demi de concert pour y arriver. Mais je pense qu'il n'y a aucun travail qui peut te préparer à ça. La seule chose qu'on m'a conseillé, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est les musiciens à ma mère, c'est d'être moi et de ne pas penser que j'allais devenir une chanteuse de jazz quand je ne suis pas.
Mais est-ce que justement être soi, c'est pas un peu difficile parfois, justement dans ce genre de contexte, avec tout ce que vous venez de citer?
Ben, en fait, au final, moins que je croyais. D'accord. C'est la vraie difficulté, c'est de se débarrasser des codes et de parce qu'il y a des vrais codes pour les chanteuses de jazz et je trouve ça dommage. Et en fait, le plus difficile, ça a été d'accepter et de comprendre réellement les raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce projet et de m'investir autant. C'est en fait, il y a une chanteuse de, il y a une sorte de symbole de la chanteuse de jazz en ce moment qui me plaît pas. C'est pas la chanteuse de jazz avec laquelle j'ai grandi. L'image du jazz vocal très calme, très, très propre, très net, c'est pas celle avec laquelle j'ai grandi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de l'hommage à Dinah Washington, c'est un véritable hommage à la chanteuse de jazz entertainer, celle qui était très bling, extravagante. C'est pas la chanteuse des torch songs, quoi. C'est pas Peggy Lee et c'est pas la classe douce de Nancy Wilson. Je suis quelque part. C'est la chanteuse de blues, en fait.
C'est plus proche de votre personnalité, peut-être.
Et qui est plus proche de ma personnalité. Et quand je pense à toutes les chanteuses que j'adore, que ce soit Bette Davis ou Millie Jackson ou Etta James, ainsi de suite, je suis en train de rendre hommage à celle-là. Celle qui chantait dans les bars vraiment pourris avec le whisky et qui rigolait avec les mecs, mais tout en étant très femme, mais qui jouait vraiment les morceaux. J'ai pas envie d'être moi sur scène, je suis pas moi. J'ai un sorte de personnage que j'ai créé au fur et à mesure des concerts. Il y a un petit bout de moi, il y a un petit bout de Dinah Washington, il y a un petit bout de l'extravagance que j'aimerais avoir peut-être dans la vie de tous les jours. Et je trouve que ça manque au jazz aujourd'hui, de ce côté entertainment et d'accepter que c'était de la pop dans les années 50. Et il n'y a pas de raison pourquoi ça ne peut pas être grand public. Et respecté et de bonne qualité maintenant.
Est-ce qu'il y a aussi également le fait, aussi bien dans les expériences que vous avez eues, vous avez cité, je sais pas, que ce soit avec Fab ou d'autres choses, plus hip-hop, etc., par rapport au public que vous touchez sur MTV, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté dans tout ça, dans déjà toute la liste de choses que vous venez d'énumérer, de toucher aussi peut-être un plus jeune public pour qui le jazz, ça reste un truc poussiéreux au loin?
Bien sûr, il y a après 5 ans d'animation de MTV, c'est sûr que. Déjà, MTV m'a permis de retrouver ma passion pour la musique. C'est en quittant les maisons de disques, en faire totalement autre chose, que je me suis retrouvée ma vraie passion pour la musique. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre sans. C'est vraiment, c'est clair, net, précis. Et c'est pas un mensonge, quoi. C'est pas un mensonge d'artiste. Oui, la même musique, non. J'ai fait l'essai, j'ai passé un an en déprime, je veux pas y retourner. MTV, ça m'a permis de regarder la musique autrement, de le arrêter de le rendre aussi précieux. Parce que quand on est dans un monde d'artistes, seulement avec des artistes qui parlent de derniers disques, des trucs, on a tendance à rendre les choses vachement élitistes et très précieuses. Et on oublie que pour un gosse de 12 ans ou pour une femme de 45, ils pensent pas à tout ce qu'on est en train de penser. Tout ce qu'ils entendent, c'est une chanson, soit ils l'aiment, soit ils l'aiment pas. Ils entendent une émotion, ils aiment bien ce refrain ou ils aiment bien ce couplet. Et c'est en fait, ça l'a rendu la musique beaucoup terre à terre pour moi. Et ça l'était plus, spécialement dans la soul française. Si t'habites à Paris, c'est très très élitiste quoi. C'est très coincé. Et donc entre ça et être confronté toujours à un public de plus en plus jeune. Quand ils me disent, ouais, j'ai adoré ton morceau avec Diams, ah ouais, c'est toi qui chantes avec les Negbarons, ah ouais, c'est un vieux morceau. Et je me dis, ok, je suis en train de faire un projet jazz, comment est-ce que je vais les intéresser à ce truc? Je raconte la vie de Dinah, oui, je raconte tout le côté un peu bling extravagante, les sept maris, les amants, les avions privés, les visons, les blagues. Je me suis dit, ok, pour amener un autre public vers le jazz, parce que le jazz et le blues, ce sont mes racines, c'est la base de toute la musique noire. Pour amener un 12 ans de la Courneuve, qui habite une cité à la Courneuve, à Dinah Washington, bah écoute, il va falloir que j'y parle son langage. Donc son langage, c'est écoute, Dinah Washington, tu vois, Lil Kim avait rien sur elle, quoi, tu vois, Lil Kim n'a rien inventé, Beyoncé non plus, elle voyageait en avion privé, quand les Noirs, ils ne pouvaient même pas manger dans la plupart des restaurants, il y avait toujours la ségrégation. Donc on explique des choses d'une façon superflue comme ça, bah, en fait, tu vois, dans le regard des gens qui ne connaissent rien au jazz, genre, ah, ok, d'accord, finalement, quelqu'un qui me parle normalement. Et pour les gens qui connaissent vachement Dinah Washington, ils rigolent parce qu'un synthèse comme ça, en général, on résume les vies des chanteuses de jazz d'une façon très précieuse et très dramatique. Et très... C'est vrai, Dinah Washington avait un problème d'alcool. Et oui, c'est vrai, elle a fait une overdose de médicaments et d'alcool. Et qu'elle était souvent déprimée et ainsi de suite. Mais c'est quand même incroyable, une femme qui a réussi à garder le mari présent et l'ex-mari dans le même groupe. C'est des choses, il y a des vraies contradictions entre la vraie artiste qu'elle était et le côté diva très bling et qui adorait jouer avec les médias. Chose que les puristes, ils en parlent peu. Tu vois, elle n'était pas considérée comme chanteuse de jazz, donc elle allait dans les Voici et les publics noir-américaines et dit « Oui, alors je me suis mariée ce week-end, je me suis acheté un nouveau vison, j'ai un nouveau Cadillac. » C'était ça, ces interviews. Et donc, je me suis dit que ce côté-là, bah, peut-être ça pourrait intéresser un autre public, parce que le jazz est vraiment regardé comme une musique de musée. Et moi, je fais partie de la génération hybride. Ça a été commencé avec avec Roy Hargrove et Steve Coleman et ainsi de suite. Moi, je suis la génération juste après qui est hybride. C'est-à-dire, oui, je comprends tous ces trucs-là, mais je comprends très bien Nas et Beyoncé aussi. Donc, il va falloir très bien que quelqu'un fasse un lien entre ça. Et en France, je trouvais qu'il n'y a pas beaucoup de chanteuses de jazz qui le font.
Même le début du hip-hop qui samplait beaucoup de jazz.
Ouais, tout. Et plus, moi, je suis une vraie fanat de l'école Native Tongue, Tribal Quest, De La Soul, ainsi de suite. Donc,
beaucoup pioché, justement.
Ah, voilà, exactement. Tu vois, genre Ron Carter, c'est le premier, avec Ray Brown, les deux contrebassistes, les noms que j'ai entendus dans ma vie, c'est Ron Carter et Ray Brown. Parce que, voilà, pour les mecs comme De La Soul et ainsi de suite, bah, c'était là où ça se passait. Et je trouve que c'est nécessaire, c'est une fusion qui est vraiment nécessaire quand je vois les gens qui, des puristes qui sont désolés ou tristes par rapport au succès d'un mec comme Jamie Cullum. Soit que t'aimes ou que t'aimes pas, ok. Mais franchement, quand j'ai entendu la première fois sa version de Fronten, j'ai fait, mais c'est trop drôle, quoi. Il reprend les délires. Il y avait un autre mec en Angleterre qui faisait que des reprises un peu en ambiance crooner. Et puis Jamie Cullum, bah oui, c'est pas le meilleur pianiste du monde. Non, c'est pas le meilleur chanteur. Mais il a un vrai, c'est un entertainer. Il est dans le truc crooner. Et il y a un côté pop. Et bah ouais, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, sauf que nous, notre projet, il est dans le son et dans la façon d'exécuter. On voulait faire un vrai hommage au fameux troisième set, Tu vois qu'on appelait, on appelait les plupart des disques qu'ils ont été enregistrés en studio par des musiciens de jazz, on appelait ça souvent le troisième set. Ils faisaient deux sets dans un club, le troisième ils allaient dans le studio, ils enregistraient. Nous on voulait faire un hommage à ça, au son club, aux prises directes, à l'émotion et pure. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis pas encore fait entièrement tuer, on s'est pas encore entièrement fait tuer par les puristes. Parce que moi j'ai un côté très pop et très grand public, tandis que Raphaël Lemonnier est un vrai jazzeux. Tous les musiciens qui m'entourent sont des vrais jazzeux, quoi. Daniel Huc, François Bienson, c'est des mecs qui sont là depuis des années, c'est des amis de ma mère, moi je savais même pas. J'ai commencé le projet, j'ai dit ouais, alors elle dit oui, j'ai un super saxophoniste, super drôle. Ah ouais, il s'appelle comment? Daniel Huc? Non, arrête. Et c'est qui fait les arrangements de cuivre? François Bienson, tu connais? Tu vois, c'est. Donc je découvre vraiment le monde du jazz français avec eux et je suis contente de les découvrir avec eux parce qu'ils sont pas coincés, eux. Donc c'est cool.
No name, just couldn't do. Had to swing it another way. Became that diner, that girl who sang the blues. There may be a.
Et pour la femme de musique, d'être sur un label qui s'appelle Blue Note, j'imagine que ça une certaine signification.
Quand
la première fois d'avoir entre les mains une pochette avec son nom, sa photo et le fameux logo.
C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il y a deux, trois semaines, enfin, que j'ai fait deux concerts au Sunside. Alors déjà, ok, je signe chez Blue Note. C'est quand même assez dingue. Je fais deux concerts, je fais des Ducs de Lamballe, je fais des Sunside. Mon beau-père, il était programmateur au Sunside. Ma mère et mon beau-père se sont rencontrés au Magnetic Terrace, qui est un club de jazz qui n'existe plus à Châtelet. Mais mon beau-père, il bossait après au Sunset. C'est-à-dire le patron, le fils du patron de Sunside, qui gère maintenant Stéphane, j'avais le béguin pour lui quand j'étais jeune. Le baiser salé, Maria, tu vois, c'est mon enfance, tout ça. Et je me retrouve d'une façon très naturelle, replonger là-dedans. Alors, j'ai fait deux dates au Sunside, blindée, je suis égarée, émue, et il y a Bruce Lundvall qui arrive. J'adore, super. J'ai failli tomber dans les pommes. Je vais en Allemagne, je rencontre les gens de Blue Note Allemagne. Le mec, il a 32 ans de maison, il a plus d'années de maison. Le mec, on y est, IMI Allemagne, a 32 ans de Blue Note. Je rentre dans une famille que je ne connaissais pas. Je connais le nom, bien sûr, et je pense que je ne peux pas faire plus fort. Je travaille pour MTV, j'ai signé sur Blue Note. Je deviens la reine du marketing, en fait. J'ai tous les labels les plus classes du monde, en fait, en ce qui concerne la musique. Il faudrait juste que je recommence, je retourne chez Radio Nova et je pense que j'aurais fait un tour de incroyable. Mais c'est. Je ne m'y attendais pas. Et maintenant que j'y suis et que je rencontre plein d'artistes et que je me plonge vraiment dans l'histoire du label parce que bien sûr je connais Blue Note mais je suis pas une fanatique du label, je connais pas tous les répertoires et là ça me donne un véritable, c'est comme si j'ai ouvert une superbe librairie. Et j'ai accès à tout, donc là je suis comme un enfant en ce moment et tous les gens que je croise, que ce soit les gens qui bossent pour le label. Et que ça soit Nicolas Flux, ça fait 11 ans que en fait Blue Note France, c'est un mec. Et c'est ce même mec qui a signé, qui a donné sa chance à Oxmo, c'est le même mec qui a fait Saint-Germain, c'est le même mec qui a donné sa chance à Stacey Kent et à Robin McKell, c'est le même mec, c'est un peu un fou. Et au-dessus de lui, il y a un mec qui s'appelle Hervé Defranou qui est à IMI depuis des années. C'est les mecs les plus cool du monde. Je suis dans une équipe. Et pourtant, j'ai passé 10 ans chez IMI. C'est ça qui est drôle. Mais là, j'ai trouvé mon équipe. C'est-à-dire, même avec tous les plans sociaux et ainsi de suite qu'on peut faire, là, je me sens d'une comprise, pour une fois. Et de deux, je fais partie d'une histoire. Et ce que j'ai dit à Bruce Lundvall, c'est, j'ai dit en rigolant, j'ai dit c'est drôle, j'ai dit je dois être la seule chanteuse jazz noire en dessous 35 ans, signée chez vous. Quelle classe! Quelle classe! J'ai dit voilà, vous, finalement, vous, je peux être votre Beyoncé quelque part. Mettez-moi dans une robe moulante, jetez-moi devant un big band et moi je vous le fais le show, quoi, tu vois.
Pour les Césars.
Voilà, je vous le fais, moi, avec un bon français ou un bon anglais. Mais je suis entièrement consciente de l'aspect, quand tu regardes la pochette du disque, tu dis. Ça va, ma fille. Et de l'aspect de quand on écoute le disque, on est agréablement surpris par le fait que c'est nature, en fait, parce que c'était très très voulu. Et je pense que Raphaël, il n'aurait pas voulu autrement. Il m'aurait tué si on avait fait un album avec plein de reverb partout. Ça aurait pas été bien, en fait, je pense.
Est-ce que c'est vital, finalement, là, en ce moment, c'est la période avec cet album, donc du jazz, ou de passer, de faire des featuring hip-hop, de faire des chansons qui sont plus proches de la chanson, d'autres plus proches du groove, d'autres plus proches du jazz, d'être tout ça, par rapport, effectivement, à ce que vous avez raconté, la musique plurielle, très vaste, de la Native Tongues à Diana Washington, etc. Est-ce que c'est vital pour vous, c'est-à-dire de vraiment passer d'un univers à un autre, de voyager un peu, de slalomer entre tous ces... Est-ce que c'est une quête un peu aussi de soi-même, de ces, par rapport à son... Là, je parle uniquement de l'aspect du chant vocal, etc.
Bah, c'est... En fait, je me suis rendu compte, j'ai commencé à... J'ai un groupe de rock metal. La semaine prochaine, je fais un concert. J'ai commencé avec eux presque au même temps que j'ai commencé ce projet. Et c'est... D'une façon très étonnante, c'est en chantant avec eux, en chantant avec mes gaillards de un minimum 1m80 qui pogotent et qui sautent partout et qui se jettent dans tous les sens, que je me suis rendu compte que mon identité musicale était vraiment ma voix. Et qu'il fallait que j'arrête de chercher, parce que c'est ça en fait, en tant qu'artiste, tu cherches ton univers musical et ainsi de suite. Bah, il a fallu que je m'accepte que j'en avais pas vraiment, à part le fait que j'ai une façon particulière de chanter ou j'ai des petites particularités de ma voix. Une fois que j'ai compris ça, tous les autres projets annexes sont devenus très faciles à faire. Avant, je luttais à essayer de tout mélanger dans ma musique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de faire ça, qu'il y avait plein de gens super cool et que je pouvais avoir mon groupe de rock metal à l'arrache, que de l'autre côté je continue mon projet soul, que je suis en train de faire mon quatrième album soul, que j'ai ce projet avec Raphaël Lemonnier, parce que c'est pas juste mon album, c'est China Moses et Raphaël Lemonnier, il y a une raison pour laquelle c'est écrit comme
c'est
ça.
C'est vrai que son nom est sur la pochette
aussi. Ouais, c'est extrêmement important. Peut-être lui il est pas sur la pochette parce qu'il est un peu timide et avec les... On voulait faire refaire la pochette Nancy Wilson Cannonball Adderley. Bon, j'ai pas réussi à le tirer sur le fond blanc. Il a dit non, mais vas-y, toi, t'as l'habitude. Maintenant, c'est avant c'était vital d'aller de gauche à droite. Maintenant, ça m'est naturel parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même et au fait que je suis une chanteuse et je suis pas une chanteuse d'un genre particulier. Oui, je suis chanteuse musique noire. Je vais pas m'inspirer chanteuse classique, mais du moment que je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec ma technique vocale et mon identité vocale. Je ne chante pas vraiment beaucoup très différemment entre mon groupe de rock et le truc de Diana Washington. Il n'y a pas vraiment de différence de façon de chanter. Il y a peut-être une différence d'énergie, de façon que je bouge sur scène ou le niveau volume. Sonneur, je peux pas enchaîner un concert de jazz après un concert de rock. Le lendemain, j'ai extinction de voix obligatoire. Si le concert m'a pas tué, bah les bières après ils l'ont, c'est sûr. Ils ont eu raison de ma voix. Mais maintenant, c'est vraiment devenu naturel et je suis beaucoup plus à l'aise. Et en France, on t'apprend à ne pas faire ça, à ne pas être pluriel. À ne pas, il faut être sur un projet à la fois. Tu peux pas être animatrice et tu peux pas être animatrice sur une chaîne commerciale et être crédible musicalement en même temps. Tu peux pas. Foutaise. En fait, disons que je suis redevenue américaine. Je suis redevenue américaine et c'est surtout que j'ai accepté le fait que là, je vais sûrement bosser, poser, faire un morceau sur le nouvel album d'André Manoukian. Je fais les chœurs, j'ai fait les chœurs la semaine dernière pour Gonzalez sur Taratata avec une amie superbe chanteuse australienne qui s'appelle Rachel Claudio. Là j'ai on finit l'album d'À l'arrache. J'ai fait un Bataclan, je fais des dates avec Raoul Midon partout en France. Je fais la première partie de B.B. King en Belgique. Je peux mourir heureuse là, c'est bon.
Ben justement, est-ce que, même si évidemment tout ça sont des choix de dire oui, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous auriez envie de dire non?
Ah oui, pas mal de rap français. C'est drôle, en ce moment, ça fait un an que je croule sur les demandes de groupes de featuring de rap français. J'en peux absolument plus, non, c'est fini. Ouais. Sauf si c'est quelque chose qui est musicalement et rythmiquement dans le flow. Limite je m'en fous du texte, mais j'ai besoin que ça soit inventif. Donc si les Saiyans se remettent ensemble, je cours. Mais sinon je serais bien faire un morceau avec Sly, voilà, on a le même manager, Sly et moi, je l'ai aidé à faire signer chez Universal. Donc disons que le rap français de rue, ça m'intéresse plus. J'adore écouter Booba, mais pendant un moment j'aurais rêvé de faire un morceau avec lui ou rêvé de faire un morceau avec Rof. Maintenant c'est plus d'actualité. Par contre j'adore les écouter toujours un soir sur le périph avec les poteaux, il y a pas de problème. Mais j'ai envie de choses qui me posent des petits challenges ou soit totalement fun. Faire les chœurs pour Gonzalez, c'était pas très difficile. Il est dans son période super fun. On a fait le morceau Working Together. Tu vois, c'est drôle. On était avec les chemises, les cravates, comme dans le clip. Ça, je dis oui tout de suite. Je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai besoin de gens qui, autour de moi, qui aiment la musique, mais qui ne peuvent pas vivre sans la musique, qui ont pas nécessairement besoin de s'affirmer ou raconter leur histoire. Et j'ai besoin d'être avec des gens qui peuvent pas vivre et qui se lèvent le matin, qui sont obligés d'appuyer sur play et mettre du son et qui sont pas enfermés dans un monde. J'ai besoin d'ouverture. Donc maintenant, en ce moment, je suis très... je suis en train de courir partout. Donc là, je vais faire... Il y a un garçon qui s'appelle Romain Diluya qui fait un album soul tout seul. Il a réussi à avoir Omar sur son album. Il y a Sandra Nkake, il y a Sly. Et moi, je dois faire un morceau. Il y a Delilah aussi dessus. Là, je vais faire aussi avec un groupe qui s'appelle Adigoba.
Ça n'arrête pas.
Ouais, mais c'est bien. Ouais. C'est ma passion. Ouais. MTV paye mes factures. C'est depuis que en fait j'ai un boulot de jour, la musique, ça va beaucoup mieux. I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces.
Alors, ces envies multiples, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Parce que là, il y a ce disque-là, ce projet, enfin, parallèlement, ce groupe de plus métal.
Là, j'aimerais.
Est-ce qu'il y a justement des voies, j'allais dire, dans tous ces milliards de chemins, sur lesquels vous n'avez pas encore marché, qui vous tendent quand même vachement?
Non, là, je pense que je suis au maximum, là. Je pense que je ne pourrais pas faire plus. J'ai une série de maquettes que j'ai fait qui sont très chansons, soul, pop. J'aimerais bien les terminer. Mais pour l'instant, non, j'aimerais partir en tournée pour la première fois de ma vie. Et c'est assez drôle, c'est un album de jazz qui m'emmène en dehors de la France. C'est étrange cette histoire. C'est un album jazz qui permet aux gens, enfin, qui me comparaient vachement à ma mère ou qui disaient que j'avais pas un talent particulier en dehors d'être la fille de ma mère, qui sont en train de venir me voir, en train de me dire « Ah ben en fait, t'es différente !» C'est assez drôle, il a fait que j'ai fait 3 albums. Bon, peut-être c'est pas des chefs-d'œuvre, j'avoue, mais il y a des bons moments sur mes albums, pas tous. Si je faisais une compile de mes 3 albums, peut-être j'aurais un très très bon album. Mais j'ai fait 3 albums, les gens ils m'ont tanné avec ma mère, et là, je fais un album de jazz, et plus personne m'en parle. Genre, à part le fait, oui, alors il y avait une autre chanteuse dans ta vie, à part ta mère. Bah ouais, il y en a plein. Je voulais être rappeuse à la base. Moi, j'étais obsédée par Néné Chéri. Je mettais des colliers en or. Je voulais être belle, funky. Et mes premières maquettes, j'ai signé avec une maquette que je rappais. Et le DA, il m'a regardé. Il a dit, tu chantes très bien, mais tu rappes pas du tout bien. Ne refais plus jamais ça. Et voilà, ma carrière de MC Light a été brisée tout de suite. J'ai jamais voulu faire un projet de jazz, mais je me retrouve à le faire d'une façon très naturelle. Enfin, en plus, c'est plus blues que jazz. Il faut que j'arrête de dire c'est jazz. Il y a vraiment un aspect énergie blues, et il y a beaucoup de chansons de blues dessus. Mais je peux pas faire plus, à part partir en tournée. Et si je peux partir en tournée avec le band de Joyeux Foufou... Ah, c'est magnifique, Raphaël, il est d'un réservé, d'un classe incroyable. Daniel Hu qui parle plus que moi. Le contrebassiste Fabien Marcos, ou parfois c'est une autre contrebassiste qui joue avec nous qui s'appelle Patricia Le Beugle, qui a une énergie incroyable. Et là, on fait toutes les blagues du girls group ensemble. Le batteur Jean-Pierre Dehoir, il est super. C'est bon de faire la musique très naturellement, avec des gens qui, pour eux, c'est... C'est drôle, parfois j'ai des discussions avec eux et ils sont là, ouais, alors t'as fait un tel en interview, ouais, Alicia Keys, ouais, c'est qui? Je les amène dans des soirées, je les amène dans mon monde, donc je fais des concerts à l'Opus, mais je fais jouer mon groupe de rock ou mon groupe de soul, et ils entendent des morceaux de Slum Village, et ils sont là, genre le contrebassiste m'a regardé, il dit, ah, la ligne de basse, et je dis, ouais, c'est un producteur qui s'appelle JD, truc nanana, il jouait beaucoup de trucs au Moog, ah ouais, mais ça démonte, c'est impressionnant. T'sais, ils découvrent des autres trucs et eux-mêmes, ils me font découvrir d'autres trucs. J'aimerais partir en tournée avec cette bande-là. J'en suis sûre que je vais m'en sortir entièrement grandi musicalement.
Dans ce côté, justement, glouton de musique, de vouloir à tout le temps en écouter, etc., quelles sont les choses, je ne sais pas ce qui est sur votre iPod en ce moment ou...
En ce moment, je suis obsédée, mais totalement obsédée par Jill Scott. Je suis revenue sur Jill, sur son dernier album, sur lequel tout le monde est passé un peu rapidement. Bon, déjà, le morceau Hate on Me, c'est un truc incroyable. Et j'adore Jill Scott en concert. Je veux être lesbienne, en fait. Quand je la vois en concert, tu sors du concert, tu as envie de sortir avec Jill Scott. Je n'ai pas une seule personne qui sort indemne de ses concerts. Et ils sont tous en lévitation, genre, ouais, t'as kiffé, ouais. Et son troisième album est un chef-d'œuvre de soul R&B réel. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc je suis retournée là-dessus. Y a quoi qui me rend dingue? Je suis revenue sur tous les albums Mother's Finest. Je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est un jour avec mon groupe de rock, on a dit ouais, vous êtes un peu en ambiance Mother's Finest et tout. J'ai fait ouais, j'avais oublié ce groupe. Donc je suis à fond. Y a quoi d'autre? Je suis sur un morceau de T-Pain, mais seulement un. Chopped and Screwed. Oh, il me rend dingue. Et il me rend totalement dingue. J'ai écouté le nouveau album de le Q-Tip. Qui est en concert bientôt. Le Raphaël Sadiq. J'ai découvert au dernier My Music Day une chanteuse. Attends, Némur. Comment? Julie Némur. Son prénom, ça m'échappe. Mais on m'a filé un sampler de son album. Je la kiffe. En fait, elle a une voix un peu à l'ancienne, un peu des chanteuses françaises à l'ancienne qui avaient un peu du coffre, qui avaient du bas. Et c'est une toute petite meuf, toute frêle. Elle peut descendre super bas. Mais c'est vraiment de la chanson française pure, quoi. Tu vois, tu pourrais presque t'endormir dessus.
Merci, Chanel Mojit.
Merci, Marc.
The sky was blue when high above, the moon was new, and so was love. The singer of mine is singing, lover, lover, where can you be? Well, that day has passed, love had its day, couldn't last. Now man's gone away, the singer, how the money singing, saying lover, lover, where can you be? Now I remember every little thing we used to do. I'm so doggone lonely. Every road I walked along was with you. No wonder I am lonely. Well, that day has passed. Love had its day. It couldn't last. Now my man's gone away. The cigar of mine is sinking. Saying, lover, lover, where can you be?
Rencontre par Marc Zisman.